Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Pérou est une dictature déguisée en démocratie. Un texte de Johann Schäuble et Isia Rouvillier, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir. Jeune et en colère, la génération Z péruvienne conteste un État gangrené par la corruption et l'autoritarisme. J'ai cru mourir ce jour-là, raconte au Devoir Maria Pia Rodriguez Salinas, encore remuée par la manifestation du 15 octobre 2025 à Lima, la capitale. Les gens étaient pacifiques. Il y avait des danseurs, des flûtistes, des échassiers qui jonglaient, décrit la photographe documentaire, présente pour couvrir l'événement. Puis, les premières bombes lacrymogènes ont explosé. Mobilisés depuis fin septembre 2025 contre un gouvernement corrompu et une insécurité record, la génération Z péruvienne a fait face ce jour-là à d'importantes violences policières qui ont coûté la vie à un manifestant, Truco Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, un rappeur de 32 ans. Tout le monde courait pour sauver sa vie, se remémore-t-elle avec effroi. Les accès de l'avenue Abanque aux abords du Congrès étaient bloqués. Il y avait des femmes enceintes, des enfants, des personnes handicapées qui n'arrivaient plus à respirer et qui suppliaient de les laisser passer en vain. Certains policiers se moquaient d'eux. Depuis, la participation au rassemblement est en berne. La mort de Truco a effrayé beaucoup de monde, explique-t-elle. Nous avons peur. Mais nous n'allons pas pour autant arrêter la lutte, assure Jacob Solano, porte-parole d'un des collectifs de jeunes de la génération Z. Horizontaux, ces groupes ne sont ni de droite ni de gauche et n'appuient aucun parti politique, insiste le militant de 23 ans. Avec ses vidéos d'information virale publiées sur TikTok, il est devenu l'une des figures les plus visibles du mouvement. La presse traditionnelle est vendue au gouvernement. Elle diffuse une image négative des manifestants, justifie-t-il. Je veux montrer aux citoyens ce qu'il se passe vraiment. Que le Pérou est une dictature déguisée en démocratie. Abus policiers, députés corrompus, homicides et extorsions en hausse. Les défaillances de l'État sont légion et alimentent le ras-le-bol des Péruviens. Les politiciens sont des mercenaires au service de l'argent. Yann Villanueva, ami du militant et cofondateur du même collectif, fustige notamment le pacte mafieux du Congrès, institution dont plus de la moitié des députés font l'objet d'enquêtes pour corruption ou autres crimes. Au Pérou, les politiciens ne servent pas le peuple, ce sont des mercenaires au service de l'argent, dénonce le comptable de 29 ans. Un rapport publié par l'ONG Human Rights Watch en juillet détaille comment des mesures parlementaires ont affaibli l'indépendance judiciaire du pays et sa capacité à lutter contre le crime organisé, conduisant à une nette détérioration de la situation sécuritaire ces dernières années. Le secteur des transports et les commerces sont particulièrement affectés. Mon père travaille à bord d'un minibus. Il a reçu des menaces d'extorsion, confie avec gravité Juan Villanueva. On lui a envoyé une vidéo d'un collègue qui opérait sur la même ligne que lui. On y voit un membre de gang l'abattre d'une balle dans la tête. Selon le ministère public, les plaintes pour extorsion ont quintuplé à l'échelle nationale entre 2021 et 2024. Le nombre annuel d'homicides a quant à lui augmenté de près de 137% entre 2018 et 2024, d'après la police péruvienne. Un des objectifs des collectifs de la génération Z est de faire annuler ces lois pro-criminalité qui permettent aux bandes organisées de prospérer. Le 10 octobre 2025, un pas a été franchi avec la destitution par le Congrès de la présidente Dina Boluarte, visés par cette enquête pénale. Même si José Jerry, qui l'a remplacé, est tout aussi corrompu. C'est une autre marionnette à la solde du Congrès, accuse M. Villanueva. L'ancien chef du Parlement est mis en cause dans une affaire pour viol après une plainte déposée contre lui en janvier 2025, classée sans suite par un procureur lui-même soupçonné de corruption. Nous souhaitons aussi obtenir justice pour les 50 personnes tuées lors des manifestations ayant eu lieu sous la présidence de Dina Boluarte entre décembre 2022 et mars 2023, ajoute Jacob Solano, le regard sombre sous ses mèches noires rebelles. Les Péruviens ont oublié, regrette-t-il. Vince Mogg refuse également l'oubli pour Trucco. Son ami d'enfance, véritable pilier du mouvement hip-hop à Lima. C'était un père et un fils formidables. Je le considérais comme mon frère, se souvient ce grand gaillard de 33 ans, ses yeux marrons assombris par la tristesse. Depuis 2012, ils partageaient leur passion pour le rap dans les quartiers populaires de la capitale. Au Pérou, les meurtriers bénéficient de l'impunité, mais nous avons besoin que justice soit faite pour Trucco. Personne ne devrait mourir pour être sorti protester, déplore le rappeur, main dans les poches comme pour se donner une contenance. Il y a un terrorisme d'État. Le 31 octobre 2025, il faisait partie des artistes à se produire sur scène à l'occasion du concert Justicia para Trucco. Dans une salle discrète du centre de Lima, une centaine de personnes, en majorité des jeunes, se sont rassemblées pour lui rendre hommage. Sous les néons rouges et bleus, entre passion pour le hip-hop et colère contenue, la foule s'est livrée à une danse survoltée. Devant eux, un petit autel, deux bougies et une photo du rappeur rappelle la raison de cette soirée, tandis qu'un diaporama de clichés de Trucco défile en boucle au-dessus de la scène. Entre deux morceaux, un même slogan revient scandé comme pour conjurer l'absence « Trucco presente ». Trucco est présent. Parmi les artistes présents, Lou Mestizzo, trentenaire au bonnet vert vissé sur la tête, se distingue par son regard déterminé. Originaire de Callao, district portuaire de la capitale, il se consacre à l'éducation populaire auprès des jeunes. Les autorités accusent les manifestants de terrorisme alors que c'est tout l'inverse. Il y a un terrorisme d'État, estime-t-il. Le gouvernement a même cherché à stigmatiser Trucco, à effacer ce qu'il représentait. Un artiste, un esprit critique, un militant qui s'impliquait dans son quartier à travers le hip-hop. Engagé dans la lutte sociale depuis maintenant 13 ans, l'artiste est inquiet pour l'avenir politique du pays. Comme beaucoup, il redoute l'échéance des élections générales prévues pour avril. L'extrême droite de Keiko Fujimori, la fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, se présente encore, soupire-t-il. Il faut tout faire pour l'empêcher de gagner. Mais boycotter les élections, brûler les urnes, ce serait offrir un prétexte aux autorités pour nous écraser encore plus, voire pour justifier une dictature militaire et... c'est la dernière chose que nous voulons. C'était « Le Pérou est une dictature déguisée en démocratie », un texte de Johan Chable et Isia Rouvillé, paru le 22 novembre 2025 dans Le Devoir.
Île de la Madeleine, au pays de la résilience. un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025, dans la presse. Partout au Québec, des communautés se mobilisent pour surmonter des épreuves. Cet automne, Dialogue vous invite à en visiter quelques-unes. Première escale, les îles de la Madeleine, où notre chroniqueuse a constaté que malgré les défis qu'impose la vie insulaire, les Madelinos ne baissent jamais les bras. Par une belle soirée d'août, des dizaines de personnes sont réunies sur le terrain de la microbrasserie, à l'abri de la tempête, à l'étang du Nord. Un trio de musiciens assure l'ambiance de ce qui ressemble à un gros pique-nique familial. Les Madelinos sont réunis pour lancer la campagne de financement en soutien au rachat du phare du Cap Allwright, mis en vente par l'animatrice et productrice Julie Snyder au coût de 595 000 $. C'est le sujet de conversation de l'été aux îles. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me craint que les racines, lance le compteur Cédric Landry à l'Assemblée. La mise en vente du phare de l'Échourie, à Avromaison, a eu l'effet d'un électrochoc au sein de la communauté madelinienne, qui n'a pas tardé à se retrousser les manches. Ça nous prenait un événement comme ça pour réaliser que lorsqu'on parle de la perte de notre territoire, ça comprend aussi notre patrimoine, souligne Véronique Deraspe, directrice de la Société de conservation des îles de la Madeleine, SCIM. La SCIM est un des organismes membres du comité d'acquisition collective du phare. En l'espace de quelques semaines, la communauté s'est mobilisée et au moment d'écrire ces lignes, près de 250 000 $ avaient été amassés. Le comité, qui a conclu une entente de principe avec Julie Snyder pour un prix de 550 000 $ avant taxes, doit trouver les centaines de milliers de dollars manquants d'ici le 15 octobre 2025. Dans mes rêves, lance Véronique Deraspe, on se créerait un fonds pour protéger d'autres perles de nos cantons. Mais pas comme ça, pas dans l'urgence, pas au beau milieu de l'été. La mise en vente du phare est loin d'être la pire épreuve qu'ont eu à surmonter les Madelinos. La liste est longue. Interdiction de la chasse aux blanchons, fermeture de certaines pêcheries, tempête, érosion des berges. L'histoire des îles de la Madeleine rime avec adversité, mais aussi avec ingéniosité. Connaissez-vous l'histoire du ponchon? Me demande le député péquiste Joël Arsenault, un natif de l'endroit. En 1910, après la rupture de l'unique câble qui les relie au continent, les Madelinos mettent à l'eau un petit baril muni d'une voile dans lequel ils déposent des messages. En deux semaines, le baril se rendra contre vents et marées jusqu'à l'île du Cap-Breton. Cette histoire, insiste M. Arsenault, montre à quel point la résilience est inscrite dans l'ADN des Madelinos. La nécessité est mère de l'invention. En septembre 2022, la tempête Fiona frappait les îles. Sur la grave à Havre-Aubert, les dégâts étaient considérables. Trois ans plus tard, non seulement les commerçants sont revenus et ont consolidé leurs bâtiments, mais de nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes sur ce site historique. Les lieux grouillent de touristes. Il y a un avant et un après Fiona, croit Jasmine Solomon, chef de section en action climatique à la municipalité des îles de la Madeleine. La tempête Dorian en 2019, dit-elle, avait éveillé les Madelinos à la réalité des changements climatiques, car les dégâts étaient très visibles. Fiona a eu un impact au niveau réglementaire. Ça a déclenché des discussions avec différents ministères pour qu'on agisse de façon durable. Il y a deux ans, la communauté maritime des îles de la Madeleine, l'agglomération qui comprend les municipalités des îles et de Grosse-Île, a donc déposé son cadre d'intervention en érosion et submersion côtière. Et depuis, 31 sites sont surveillés de près. Parallèlement, on a mis en place diverses mesures pour ralentir l'érosion. Je visite les îles depuis 20 ans et j'ai vu le paysage changer au cours des dernières années. À commencer par les enrochements et les recharges de plages à la grave, après le passage de Dorian, où on observe un retour à la biodiversité plus rapide que prévu. Se réjouit Mme Solomon. Une équipe de 50 scientifiques suit l'évolution des différentes recharges partout sur le territoire des îles, m'explique-t-elle, et on pense installer des caméras pour surveiller d'encore plus près les effets des tempêtes. Mme Solomon est enthousiaste. Les projets se multiplient. Jusqu'en 2030, le ministère du Transport et de la Mobilité durable, TMDQ, construit des recharges à des endroits particulièrement vulnérables, comme la Martinique et Pointe-aux-Loups. Plutôt que d'importer des galets de Terre-Neuve, comme pour la grave, on récolte le sable directement dans la mer pour reconstruire les cœurs de dunes. Toujours à la Martinique, un projet pilote verra l'installation de tubes en géotextile remplis de sable. Ils permettront de stabiliser l'érosion et de soutenir la recharge de plages. D'archipel vulnérable, les îles de la Madeleine sont en train de devenir un véritable laboratoire pour l'adaptation au changement climatique. Quand on peut, on utilise la nature environnante pour contrer l'érosion, comme pour ces brises-vagues faites de sable et de végétation qui diminuent la puissance des lames qui viennent s'écraser sur la côte. Un autre exemple, la biocalcification des falaises, un projet en attente de financement. En gros, m'explique Jasmine Solomon, il s'agirait de produire des micro-organismes qui fabriquent une fine pellicule pouvant recouvrir les falaises. Comme si on les enveloppait dans une pellicule plastique de type Saran Wrap pour réduire l'érosion. Les tests sont concluants ailleurs, affirme Mme Solomon, et la bactérie pourrait même être produite sur place. Un lieu d'innovation. Au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes, CERMIM, un organisme qui est au cœur de l'innovation en environnement, on aimerait bien faire des îles un pôle de recherche et développement. C'est ce que m'explique Marc-Olivier Massé, directeur associé du Centre, créé en 2004 et qui compte actuellement 15 employés. On fait le lien entre la recherche, l'entreprise et la communauté, et on travaille sur trois axes, la gestion des déchets, l'économie circulaire et la mer, précise-t-il. On occupe beaucoup le golfe, ajoute le géographe de formation en me montrant un des deux robots sous-marins télécommandés capables de plonger à plus de 300 mètres de profondeur pour aller chercher des instruments techniques ou encore pour récupérer des casiers à crabes et à homards. Une technologie d'avant-garde qui leur amène plusieurs contrats. Le CERMIM collabore avec des chercheurs du Québec et des provinces maritimes en plus d'être en contact avec des réseaux insulaires ailleurs dans le monde. On travaille aussi avec les différentes industries pour qu'elles améliorent leurs pratiques et deviennent résilientes, souligne M. Massé. L'insularité oblige les chercheurs à rivaliser de créativité. Il faut viser l'autosuffisance sans générer trop de déchets. Ça donne des projets comme la valorisation des coquilles de mollusques, pétoncles, palourdes, etc., qui, broyés, remplacent la chaux importée aux îles pour faire baisser l'acidité des sols. C'est cette acidité qui leur donne leur belle couleur rouge. Autre exemple, un projet pilote de broyage de résidus de crabes transformés en engrais pour le jardin. Des déchets en moins au Centre de gestion des matières résiduelles de Havre-aux-Maisons, déjà sous pression. C'est à se demander si le proverbe « la nécessité est mère de l'invention » n'a pas été inventé aux îles. Attirer des gens aux îles. Tout autant que les changements climatiques, le déclin démographique inquiète le maire de la municipalité, Antonin Valiquette. Ici, m'explique-t-il, l'âge médian est supérieur de 10 ans à la médiane québécoise. Sur le continent, pour 100 personnes qui prennent leur retraite, il y a 60-70 personnes qui prennent la relève. Et les gens s'inquiètent. Aux îles, c'est 35. La communauté maritime des îles n'a pas attendu que les prévisions de l'Institut de la statistique du Québec, ISQ, se réalisent pour agir. En 2017, la communauté maritime a adopté la stratégie d'attraction des personnes, un plan pour attirer des travailleurs de l'extérieur. La cible était fixée à 100 par année. Résultat? On a attiré 920 personnes depuis 2018. « Ce n'est pas loin d'un village », s'exclame le maire Valiquette, qui se félicite que la majorité de ces nouveaux Madelinos ait entre 25 et 44 ans. Une bonne nouvelle, donc, qui pose toutefois un autre problème, l'habitation. « On les met où, ces gens-là ?» demande le maire, rappelant une évidence. « Aux îles, on ne peut pas s'étaler comme sur le continent. S'il y a un endroit où je ne pensais pas entendre parler de densification, c'est bien ici. » Or, comme partout au Québec, les îles de la Madeleine sont soumises à la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire du gouvernement québécois. Il faut donc densifier. Le CISSS vient d'obtenir une dérogation pour construire un édifice à 3 étages de 60 logements. Un autre grand employeur construira des dizaines de logements à Cap-aux-Meules où un projet d'éco-quartier se concrétise tranquillement. La municipalité a également adopté des règlements, controversés, il faut le dire, pour mieux encadrer les résidences touristiques. Bref, là encore, on prend le taureau par les cornes, même si construire des logements aux îles coûte 60% plus cher que sur le continent. On dirait que peu importe le défi que le destin envoie aux Madelinos, ils s'en emparent et font du judo avec. Si ce n'est pas de la résilience, je ne sais pas ce que c'est. Les îles de la Madeleine, en bref. Population. 12 654 habitants, variation, plus 1,4% par rapport à 2016. Âge moyen, 49,2 ans. Superficie, 202 km². C'était Île de la Madeleine, au pays de la résilience. Un texte de Nathalie Collard, paru le 22 septembre 2025 dans la presse.
On se débrouille du mieux qu'on peut. Un texte de Chloé Bourquin, publié le 13 novembre 2025 dans La Presse. J'ai vu qu'un côté de ta tente est brûlé. Ça m'inquiète, ton système de chauffage. Dans un campement de Montréal-Nord, situé sur un terrain abandonné coincé entre une voie ferrée et le stationnement d'un Canadian Tire, Ariane Vachon discute sous la neige avec Louis. Un sac de couchage sous le bras, casquette et capuche sur la tête, celui-ci l'écoute attentivement. Si le service incendie vient te voir, il dirait-tu que c'est safe ton affaire? Lance la travailleuse sociale, l'air préoccupé. Hugo Fugère, un des deux policiers du service de police de la ville de Montréal, SPVM, qui l'accompagne, renchérit. Tu l'alimentes avec du bois? La boucane, elle vient pas dans ta tente? C'est gentil, mais je sais ce que je fais. J'ai fait des tests. Ça ne me tente pas qu'il m'arrive de quoi, répond simplement Louis avec un sourire. C'est sécuritaire, inquiète-toi pas. Ariane Vachon fait la moue, mais n'insiste pas, puis passe à un autre sujet. La travailleuse sociale intervient régulièrement dans des campements pour faire notamment de la prévention au sujet des feux, parfois accompagnée de policiers du SPVM. Ce serait illogique de leur dire de ne pas faire de feu. À leur place, c'est sûr que j'en ferai un, nous glisse Hugo Fugère. Il n'y a pas de solution magique pour amener la chaleur dans une tente, donc on leur donne des conseils pour essayer de faire ça de façon sécuritaire. Mais souvent, ils sont très au courant des risques. Ils les connaissent même mieux que nous-mêmes, dit Hugo Fugère. C'est sûr que c'est difficile que ce soit zéro dangereux, admet Jean-François Saint-Onge, travailleur de proximité chez RAP Jeunesse, qui rend lui aussi souvent visite aux campeurs. C'est vraiment une discussion qu'on a avec eux. On n'est pas là pour leur faire la morale. Ça fait des années qu'ils sont dans la rue. Ils connaissent leurs affaires. Un poêle à bois fait maison. Le campement, recouvert de neige fraîche, est à peine perceptible de la route. Seuls quelques chariots abandonnés ici et là trahissent sa présence. « Bienvenue dans mon petit salon particulier », lance René Marquis en soulevant la toile de sa tente pour nous inviter à rentrer. Cela fait 4 ans que l'homme de 57 ans vit dans la rue. Il a déjà vécu 6 démantèlements. Il espère se trouver un logement d'ici la fin de l'année, un 3,5 qu'il partagerait avec d'autres sans-abri. Une place en refuge? Il ne veut pas en entendre parler. Un jour, un gars s'est fait agresser. J'ai essayé de le défendre. J'ai mangé 2 coups de couteau. Depuis, j'ai de la misère avec les refuges, dit René Marquis. René Marquis nous montre son poêle à bois fait maison, composé d'une carcasse de micro-ondes où s'entassent quelques morceaux de bois et de carton, d'une grille de barbecue et d'un tuyau encerclé de grillage qui permet à la fumée de s'échapper sans enfumer sa tente. Il s'en sert de temps en temps, lorsqu'il n'a pas d'autre option, pour se réchauffer, se préparer une soupe ou un café. Il garde toujours un gallon d'eau pas loin pour éteindre le feu, au cas où. « On fait ce qu'on peut pour que ce soit sécuritaire », précise-t-il. « On se met à 3-4 à l'intérieur pour se réchauffer ensemble. Les policiers ne nous disent rien. Mais parfois, les gens n'aiment pas la boucane. » Quand les conditions météo le permettent, il utilise aussi un petit réchaud au butane à l'extérieur de sa tente pour se faire à manger. Son rêve serait d'avoir un foyer de camping portatif. « Ça, c'est merveilleux », souligne-t-il, des étoiles dans les yeux, « mais ça coûte trop cher pour qu'il puisse en acheter un. » « Sinon, on se débrouille du mieux qu'on peut », ajoute-t-il. « On a des sleeping bags, des couvertes, des vêtements chauds. On essaye que le vent n'entre pas. Et avec la neige qui isole ma tente, je suis vraiment bien en dedans. Je dors comme un bébé, même quand il fait froid dehors », dit René Marquis. Monsieur Marquis précise qu'il vient de Mascouche, où il a appris à faire du feu avec ses parents. S'il estime que son setup est sûr, Il précise que d'autres sans-abri, moins expérimentés que lui, font parfois des feux à ciel ouvert et brûlent n'importe quoi, comme des morceaux de plastique. « C'est vraiment dangereux et ça fait de la boucane en plus », indique-t-il. Risque mortel. Depuis quelques semaines, avec la chute des températures, les incendies dans les campements de personnes en situation d'itinérance se sont multipliés. Le nombre d'appels qu'on reçoit augmente avec le froid, c'est certain, affirme Guy Lapointe, chef de la division des communications du Service de sécurité incendie de Montréal, SIM. Ces appels concernent généralement des feux à ciel ouvert ou des tentes qui prennent feu par accident. Mais le pire, ce n'est pas les flammes, c'est le monoxyde de carbone. C'est vraiment sournois, explique Ariane Vachon. On a eu un décès l'hiver dernier, quelqu'un qui essayait de se réchauffer avec un poêle à l'intérieur d'une tente. Outre les travailleurs sociaux et les policiers, une équipe du SIM intervient elle aussi auprès des personnes en situation d'itinérance pour leur donner des conseils afin de se réchauffer de façon sûre. Sans complètement interdire les feux, les équipes recommandent d'éviter les flammes nues ou encore les petits barbecues ou les appareils au propane dans les tentes. On veut s'assurer que ce soit utilisé de façon conforme, souligne Guy Lapointe. On essaye de trouver des solutions avec eux, tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, dit Guy Lapointe, chef de la division des communications du SIM. Avec la première bordée de neige, l'équipe du SIM a multiplié ses visites. Elle s'est rendue dans 6 campements dans les derniers jours. Le risque d'effondrement d'une tente sous le poids de la neige s'ajoutant à celui d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incendie. Le risque d'incendie est souvent évoqué par la Ville de Montréal ou par les personnes qui habitent autour pour demander de démanteler un campement, déplore René Aubregon-Ida, directeur général de l'organisme RAP Jeunesse. Ça a notamment été le cas pour le campement de Notre-Dame en juillet dernier. L'affaire a été portée devant les tribunaux par la clinique juridique itinérante, ce qui a donné un sursis de quelques mois aux campeurs en attendant la décision du juge. Mais la meilleure prévention serait que ces personnes aient une place pour dormir au chaud, rappelle René Aubregon-Ida. C'était « On se débrouille du mieux qu'on peut », un texte de Chloé Bourquin publié le 13 novembre 2025 dans La Presse.